Bonjour et bienvenue à tous. On est là du coup en compagnie de trois super invités. On va parler du sport et de la santé mentale. Donc nous avons Marie Moura, coach sportive dans une salle de fitness des Landes.
Exactement.
Bonjour.
Bonjour.
La salle ouvre un créneau pour les enfants et les jeunes pour les mercredis, pour la rentrée.
Exactement. Tous les mercredis, on ne sait pas encore l'heure exacte, tout le mercredi aura un créneau pour les enfants, un petit cross-training.
Ok. Et tu t'entraînes en ce moment pour le Pugna Challenge?
Exactement, qui sera en mai de l'année prochaine, donc j'ai un petit peu le temps.
Qu'est-ce que c'est?
C'est une petite compétition de crossfit, donc organisée par le géant de l'Orange Bleu à Dax, dans laquelle je vais participer avec un adhérent qui m'a proposé de participer avec lui en équipe, donc ça va être trop top, on va bien s'éclater.
Bah, bon courage.
Merci.
Nous avons aussi Théo Gatelier, qui est rugbyman professionnel de Pro D2, dans l'équipe de l'Union Sportive à Dax.
Bonjour.
Tu as grandi dans ce club, tu as été formé, et tu incarnes parfaitement cette génération de joueurs qui ont su s'imposer au plus haut niveau en restant fidèles à leurs racines. En 2018, tu as été sélectionné dans l'équipe nationale de rugby à 7 pour le championnat du monde universitaire. Et ensemble, vous avez réussi à décrocher la médaille de bronze. Merci d'être là.
Avec plaisir.
On a le derby landais qui arrive vendredi soir. Et malheureusement, tu as été blessé, donc tu ne pourras pas jouer.
C'est ça. Je me suis fracturé la main il y a 3 semaines. Donc voilà, je raterai ce match, mais ce n'est pas très grave.
Et bonjour Paco Touzé.
Bonjour.
Tu es boxeur dans la catégorie des moins de 70 kilos.
C'est ça.
Tu viens d'une famille de boxeurs. Tu as 16 ans et tu as déjà remporté des médailles à l'international.
C'est ça.
Tu t'entraînes en ce moment pour le championnat de l'Aquitaine.
Oui.
Et c'est la finale, tu as été sélectionné pour la finale.
Oui, c'est ça.
Alors d'abord, je vais me tourner vers toi, Marie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach?
Alors, j'ai commencé par faire des études pour être professeur de PS, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout ce que j'aimais, parce que je faisais en parallèle donc au club universitaire de Tarbes de l'haltérophilie. Et je passais des heures et des heures dans le club d'haltérophilie à pratiquer, à faire des bêtises avec mes copines et tout ça. Et tout le monde n'arrêtait pas de me demander qu'est-ce que je faisais là. J'avais vraiment le profil de quelqu'un qui donnait des cours collectifs. En parallèle, j'étais aussi dans une salle de musculation. Je pratiquais cours collectifs, je faisais de la musculation. Et vraiment, je me suis rendu compte que c'était là-dedans que je m'éclatais et que c'était là-dedans que je voulais travailler. Donc j'ai foncé, je suis partie.
Okay. Tu accompagnes beaucoup de jeunes et d'adultes au quotidien. Et qu'est-ce que tu observes le plus dans leur rapport au sport et au mental?
Il y a beaucoup de personnes qui viennent après le travail ou pendant leur pause. Elles viennent surtout pour décompresser, en fait. Pour sortir de leur quotidien, décompresser, se défouler. C'est ce qu'elles attendent le plus. Il y en a beaucoup aussi qui attendent beaucoup de changements avec le sport. Elles viennent parce qu'elles veulent un changement physique, elles veulent se reprendre en main. Il y en a ici qui viennent parce qu'elles cherchent plus de confort dans la vie de tous les jours, donc avec des exercices de mobilité, d'étirement, etc. C'est très varié, mais c'est toujours dans quelque chose de meilleur, dans l'idée d'être, on va dire, une meilleure version de soi. Okay. Voilà.
Maintenant, Théo, qu'est-ce que tu as appris pour tes matchs sur l'importance?
L'importance du mental, c'est quelque chose qu'on a quasi au quotidien. Nous, on s'entraîne quasi quotidiennement, du coup. C'est important sur toutes les facettes du jeu, mais aussi de la préparation, des entraînements. Un physique tout seul, je pense que dans le sport, il aura toujours du mal à faire quoi que ce soit s'il n'y a pas derrière... une certaine forme d'intelligence et aussi d'envie de se surpasser. Donc c'est... Ouais, je pense que dans tous les sports, le mental, il est primordial.
Du coup, le rugby, c'est un sport d'équipe. Comment l'état d'esprit de tes coéquipiers influence ton propre moral?
C'est important parce que... on dit souvent que c'est un effet de groupe. On fonctionne toute la semaine ensemble. Le positif attire le positif. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir dans son équipe la majorité des personnes qui se sentent bien, qui sont heureuses de faire ce qu'elles font, qui se sentent bien physiquement, ce qui du coup fait qu'elles sont performantes sur le terrain. Dès qu'il commence à y avoir trop de personnes dans un effectif qui sont pas heureuses, qui se sentent pas très bien, ça peut influencer aussi les autres. Il vaut mieux avoir une bonne humeur voilà, qui va être contagieuse, on va dire. Ça fait toujours du bien et ça permet de mieux s'entraîner et de mieux jouer tous ensemble.
Dans le rugby, tu peux compter sur tes coéquipiers pour te soutenir. Mais Paco, dans la boxe, tu es tout seul. Et donc du coup, c'est toi contre toi-même. Comment est-ce que tu gères la pression et le stress quand tu es tout seul sur le ring ?
Alors, je gère la pression. J'ai pris une sophrologue et du coup, elle m'aide pour tout ce qui est mental, par exemple, avant mes combats. Du coup, je fais beaucoup de visualisations et du coup, ça m'aide beaucoup. Voilà.
Ok. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur mentalement avant un combat ?
Avant un combat, pour moi, le plus dur, c'est gérer son poids. Gérer son poids parce que du coup, dans la boxe, il y a des catégories. Du coup, c'est de 3 en 3. Et si on dépasse, du coup, vraiment de 1 gramme, du coup, on peut pas combattre. Et du coup, moi, mon problème, c'est le poids, c'est ça. C'est gérer son poids. Voilà.
Alors, le sport peut aider à souffler, à sentir mieux, à se recentrer. Pour beaucoup de jeunes, c'est un vrai refuge. Pour vous trois, du coup, à quel moment le sport vous a vraiment aidé mentalement ?
Difficile à dire à quel moment vraiment ça m'a aidé mentalement. Après, moi j'ai un exemple avec mes parents. C'est vrai qu'on est depuis très jeune dans ces filières de haut niveau qui nous destinent à devenir professionnels ensuite. Dès 16 ans, on est dans des équipes qui jouent le meilleur niveau français. Ensuite, on rentre dans des centres de formation. Au final, on fait ça tous les jours. Je pense que ça m'a aidé à prendre en maturité assez rapidement, peut-être par rapport à d'autres personnes de mon âge. On apprend très vite que si on veut quelque chose, il faut savoir aller se le chercher, tout simplement parce qu'on est énormément en concurrence pour très peu de place à la fin, à décrocher un contrat professionnel. Je pense que moi, ça a été vraiment cette période-là à laquelle ça m'a le plus servi, où... Voilà, j'avais 18-20 ans et je savais que si je voulais réussir ce pourquoi je m'entraînais depuis tout petit, en fait, hein, parce que c'était un rêve, il fallait travailler plus dur que les autres, aller davantage s'entraîner, jamais lâcher quoi que ce soit. Et je pense que ça m'a permis de grandir en tant que sportif, ça c'est sûr, mais aussi en tant qu'humain en dehors du sport.
Moi je sais que par exemple quand ça va pas dans ma vie ou quoi, c'est dans le sport que je vais. Il y a des périodes de ma vie où ça allait pas du tout et par contre je me suis vraiment détruite au sport quoi. Je suis allée jusqu'à l'extrême, j'ai poussé mon corps à bout. Même si j'étais blessée, je continuais. Même quand ça allait pas, je continuais. Mais du coup, le problème c'est qu'après c'est blessure sur blessure. Après on atteint un niveau où il faut forcément à un moment donné s'arrêter. Donc on apprend aussi à se canaliser, à se gérer, à gérer ses émotions. Parce que c'est pas parce que ça va pas et que dans le sport, du coup, je peux me défouler qu'il faut forcément y aller comme un tabana, c'est continuer jusqu'au bout, quoi. Donc c'est ça qui est bien, c'est que, oui, d'accord, ça aide à canaliser, mais ça aide aussi à gérer ses émotions, à savoir quand s'arrêter, quand continuer, quand est-ce qu'il faut prendre soin de soi, prendre un peu de recul ou pas, ou continuer. C'est une petite thérapie finalement, pour moi en tout cas.
Est-ce que tu peux me répéter la question ?
La question, c'est à quel moment le sport t'a vraiment aidé mentalement ?
Le sport, ça m'a vraiment aidé mentalement. C'est. Du coup, c'est cette discipline. Du coup, c'est la discipline qu'il y a dans la boxe. Du coup, ça m'a vraiment aidé mentalement dans la vie de tous les jours. Par exemple, déjà se lever, puis après travailler. Puis après, re-s'entraîner le soir, ça, je pense que ça m'a vraiment aidé mentalement. À être vraiment plus fort que... Vraiment essayer à être plus fort que les autres. Ça m'a aidé mentalement.
Est-ce que vous avez une pratique ou un rituel que vous avez mis en place pour gérer le stress ou l'anxiété ?
Pas vraiment.
Non, moi, j'ai juste mes petits rituels d'avant-match où je sais que je fais toujours les choses dans le même ordre.
Comme par exemple ?
Comme par exemple, je sais que la journée, nous on joue le soir, du coup, souvent le vendredi soir. Je sais qu'il faut que ma journée se passe de telle façon, je mange à telle heure, après j'ai ma sieste. Je fais toujours en sorte qu'il n'y ait pas d'imprévu dans la journée. Ensuite, à partir du moment où on arrive au stade, c'est ma manière de sortir mes affaires de mon sac, de les disposer, de m'habiller. Je fais attention à l'heure aussi pour toujours sortir m'échauffer à la même heure. C'est juste des petits... c'est rien de bien particulier, mais Ça permet d'avoir l'impression de contrôler en fait ce qui va se passer, et du coup de qu'il n'y ait pas un imprévu qui fasse qu'on se sent un peu perdu, qu'on perde le contrôle sur la préparation. Voilà, c'est juste ces petits rituels là.
Ça permet de te rassurer.
Ouais, tout à fait.
Ça, c'est un peu tout le monde. Quand tu regardes bien dans ta journée, tu feras toujours les choses de la même manière, de la même façon, dans le même ordre, de ton lever à ton coucher. La manière de te préparer, dans quel ordre tu te prépares, dans quel ordre tu t'habilles, c'est toujours la même chose. Il y en a qui vont mettre le pantalon avant les chaussettes, il y en a qui vont mettre les chaussettes avant le pantalon.
Je suis pas d'accord.
Ah ouais. Moi, personnellement, je sais que c'est quasiment toujours la même chose. Et si j'ai un imprévu, s'il y a un truc qui va pas, ça peut me plomber ma journée. Perso, c'est toujours, je me lève, je fais la première chose que je fais, ce sera toujours la même chose. Et ce sera quasiment toujours dans le même ordre. Et s'il y a un truc que je fais pas dans la mort, ça va me perturber pour ma journée. Okay. Je sais que si je vais me dire, ça va être une mauvaise journée. Je sens qu'il va se passer des trucs dans cette journée qui vont pas aller, quoi.
Est-ce que tu as un rituel particulier ?
Alors oui, du coup, avant le combat, j'aime bien me poser dans le vestiaire, dormir un petit peu. Après, j'aime bien me faire masser pour vraiment que le sang circule bien. Et du coup, je fais un petit peu de visualisation, de respiration. Et puis après... Je suis prêt pour le combat.
Ok. Mais si le sport peut aider, il peut aussi mettre sous pression. Certains jeunes vivent le sport comme une pression permanente. Qu'est-ce qui vous met le plus la pression dans votre discipline ?
Alors du coup, moi, ce qui met le plus la pression, en vrai, c'est de bien faire les choses, de bien réussir. Je pense que ça met un petit peu la pression. Comment expliquer ça ? De rendre fier mon entourage aussi. C'est ça aussi, oui.
Du coup, dans mon métier actuel, coach sportive, ce qui met la pression, c'est surtout ce que les gens vont penser. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Ou est-ce qu'il faut que j'en enlève ? On essaie toujours de se renseigner auprès des gens pour savoir si ça allait, si ça allait pas. Il y a toujours une remise en question qui se fait. Est-ce qu'il faut que je change ma façon de faire ou pas ? Ça met un peu la pression parce que du coup, on est toujours un peu entre deux. On ne sait pas trop quoi faire. On y va, mais on n'est jamais sûr de soi. Et on voit, une fois que ça s'est passé, si c'était bien ou pas. Et encore là, même, on ne sait pas trop, parce que les gens, parfois, ne viennent pas forcément te le dire. Ils se le disent entre eux, mais ils ne te le disent pas. Donc, c'est parfois avec le temps, mais parfois, on ne sait pas trop.
Après, tu vas leur demander aussi.
Oui, ça m'arrive de leur demander, mais je vais pas être là à courir derrière eux, à leur dire « c'était bien, dis-moi que c'était bien ou pas ». On met un peu de distance, on essaie de regarder comment les gens réagissent, savoir s'ils sont contents, pas contents, s'ils ont bien été crevés pendant la séance et du coup, si ça va ou pas. C'est les comportements après surtout. Les regards, quand ça parle, tout ça, on essaie de voir de temps en temps, on va demander, oui, il y a des petits check-up qui se font de temps en temps, mais après, c'est beaucoup de remise en question aussi. On est toujours sur de la recherche, on va aller voir les derniers articles qui sont sortis, les nouveaux exercices qu'ils voient, puis on se fait notre propre opinion, est-ce que je pense que c'est vraiment bien ou pas, parce que chaque coach a sa façon de faire et sa façon de penser aussi. Et je pense que c'est un peu pareil partout, finalement. Dans toutes les disciplines, il faut toujours se remettre à jour.
Non, nous, par rapport à la pression, c'est vrai qu'on a un métier qui est quand même atypique. On est un peu une vitrine pour que ce soit pour les plus jeunes qui veulent faire comme nous. On est exposé avec les médias, la télévision, tout ça. Donc, il y a des attentes autour de nous. À côté de ça, on a l'image, le métier de sportif professionnel, c'est quand même un métier extraordinaire. On vit de notre passion et ça, c'est super chouette. Je sais la chance que j'ai de faire ça, mais par contre, à côté, on est toujours obligé d'être au top, non seulement parce qu'on a des obligations de résultats, il faut être performant pour le club, il faut être performant aussi vis-à-vis de soi parce que c'est des contrats qui durent que quelques saisons. C'est très dur d'arriver vers une fin de contrat, de ne pas forcément être performant parce qu'on ne sait pas du coup de quoi l'avenir sera fait. Il y a aussi évidemment une forme de concurrence pour jouer le week-end. Donc il y a tout ça qui est pas toujours facile à gérer. Les émotions s'enchaînent hyper vite. On peut passer d'une victoire incroyable à la semaine d'après une défaite qui va plomber le moral de tout le monde. Donc ça, c'est... On apprend un peu à le gérer avec le temps et avec l'habitude, mais, euh, Ouais, forcément, il y a de la pression. C'est un peu le revers de la médaille. Il y en a qui réagissent très bien à la pression. Il y en a pour qui c'est un peu négatif. Ça peut au contraire baisser leur performance. Mais il faut savoir faire avec. Ça fait partie de notre sport et du coup de notre métier aussi.
Et du coup, vous entraînez à gérer cette pression. Comment est-ce que vous la, une fois que vous la subissez, comment est-ce que vous réagissez par rapport à elle?
Alors chacun la gère un peu comme il veut. On n'a pas d'accompagnement, enfin nous en tout cas au club à Dax, on n'a pas de préparateur mental ou quoi que ce soit. Certains clubs font appel à des professionnels pour gérer ça. Paco, tu parlais de sophrologue. Moi je sais que j'ai déjà fait des séances par moi-même parce que j'ai déjà été formé à les faire par un professionnel du temps où j'étais au centre de formation. Donc ça c'est hyper intéressant. Après voilà, il y en a qui se font accompagner. Mais ce qui est bien, c'est que ça a longtemps été tabou dans le sport et encore plus dans le rugby parce que ben, un sport d'homme, on va dire, il fallait pas montrer ses émotions, tout ça. Et là, la parole se libère un peu par rapport à ça. Même nous, au sein du vestiaire, bon, mais voilà, on n'a plus honte de dire qu'on va voir quelqu'un, ne serait-ce que pour aider à gérer cette pression. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait de gros mal-être derrière. Mais la parole se libère un peu. Et je pense que du coup, ça va participer aussi à réduire la pression sur certains joueurs qui n'arrivaient pas à la gérer tout seuls. Et à côté de ça, ils ne voulaient jamais dire aux coéquipiers ou aux copains qu'ils allaient se faire aider ou quoi que ce soit. Donc tout ça, je pense qu'actuellement et dans le sport en général, ça va un peu vers le positif parce que même les plus grandes stars mondiales qui sont des modèles pour nous, maintenant, elles n'ont plus peur de dire dans les médias que, voilà, qu'à un moment donné dans leur carrière, elles ont eu besoin d'aide.
Et du coup, tu parles que tu as eu une formation en sophrologie. Est-ce que tu arrives à mettre cette formation au service de tes coéquipiers? Est-ce que c'est pertinent de la mettre de toi en tant que membre de ton équipe?
Alors, non, pour le coup, ce serait sans doute pertinent, ça c'est sûr. Après, je ne vais pas, moi, proposer à certains de mes coéquipiers d'aller faire une séance de sophrologie ou quoi. Si on en parle, je vais leur dire bah, peut-être que tu devrais essayer ça. Mais je vais pas, non, moi, diriger, on va dire, une séance de sophrologie. Quand on était au centre de formation, on a été initié à ça, mais pas pour la dispenser, en fait, pour la pratiquer nous-mêmes. Okay. Voilà. Je sais que moi, ça m'est arrivé, notamment sur des périodes de blessures, parce que je croyais au fait que ça allait m'aider à guérir et tout ça, et d'ailleurs, j'en suis encore persuadé. Je suis sûr que ça m'a aidé, mais du coup, je le faisais pour moi. Voilà, je me forçais à le faire avant de me coucher, à faire des séances de méditation ou de sophrologie. Voilà, se concentrer sur le corps, les petites douleurs du corps, essayer d'être un peu plus conscient de ça et d'aider notre corps à se régénérer. Voilà.
Et du coup, par rapport à la douleur, comment est-ce que vous la gérez dans vos sports respectifs? Parce que ça doit attaquer aussi le moral.
Ouais, il faut s'écouter. Enfin, moi, dans mon métier, en tout cas, faut s'écouter. Dès qu'il y a une douleur ou quoi, bon, on continue un petit peu, on pousse un peu. Et puis, si vraiment ça passe pas, on essaie de trouver des solutions avec nos connaissances ou en faisant appel à des professionnels. Après, moi, je sais que personnellement, j'ai développé une petite peur de la blessure parce que je me dis, si je me blesse, je peux plus faire mon métier. C'est fini, quoi. Ouais. Donc, il faut faire hyper gaffe quand on fait des trucs tout bêtes, mais des déménagements, où on va faire un jeu avec le copain, faire un foot avec les copains ou un truc comme ça. Ben oui, mais on fait attention. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'à tout moment, ben, finalement, on se blesse. En plus, la plupart du temps, c'est dans ces moments-là qu'on se blesse sans faire attention. Et après, ben, tu ne peux plus pratiquer, tu ne peux plus faire ton métier. Donc, je trouve. Enfin, moi, perso, j'ai une petite peur sur ça, je fais hyper attention. À mes positions, si je sens un petit truc, même si les gens ils ont besoin de moi, je vais dire, écoutez, oui, mais je vais me mettre un peu en retrait parce que j'ai pas envie de pousser plus loin et de risquer de me faire mal.
Par rapport à la douleur, ça va,
c'est...
Ça va.
Par rapport à la douleur, oui, ça va.
Okay. T'as jamais été, pour l'instant, en impossibilité de donner un match, par exemple,
parce que... Par rapport à la douleur, par exemple, pour un tournoi international, par exemple, j'étais gravement malade, j'étais vraiment malade. Du coup, j'ai fait le tournoi. Et du coup, j'ai gagné le tournoi. Voilà.
Bravo. Ouais. Donc, ça t'a pas arrêté, ça t'a pas attaqué, ou alors ça, peut-être que ça t'a donné encore plus envie de.
Oui, ça m'a donné encore plus envie de gagner, ça.
Ok. Ouais.
Après, je pense qu'on n'a pas le même seuil de douleur avec l'expérience. En fonction des sports qu'on fait ou des pratiques qu'on a. Enfin, je pense que les sportifs, ils ont un seuil de douleur qui est peut-être plus élevé que la moyenne, parce qu'on a appris à faire avec de temps en temps, et on sait peut-être faire la différence entre une grosse douleur où là, bon, ok, et une douleur où on sait que ça va passer, ou juste on force, on continue, quoi. Je sais pas si c'est le cas pour les deux autres, du coup.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est un équilibre à trouver entre... Bah, il faut savoir se faire mal, hein, repousser ses limites, mais sans pour autant mettre trop son corps en danger. Évidemment pour nous, parce qu'une carrière, ça va très vite. Ça dure, je crois que la moyenne d'une carrière de rugbyman de haut niveau, c'est 7 ans, il me semble. Au maximum, c'est 15, quoi. Donc il faut savoir s'arrêter quand il faut pour se soigner, mais on a aussi toujours envie de revenir plus vite parce que... Parce qu'on veut être disponible, on veut être là pour aider l'équipe, pour être performant, pour avoir la possibilité de jouer le week-end. Donc c'est toujours dur. Moi le premier, on a souvent tendance à revenir trop tôt, tout simplement, à forcer le destin, à dire ben non, j'ai pas mal, donc c'est bon. On a autour de nous des équipes de kinés, d'ostéo, de docteurs. Mais voilà, ils ont beau faire tous les examens qu'ils veulent, si on leur dit qu'on se sent bien, ils vont nous laisser repartir sur le terrain. Et donc il faut savoir se gérer sur ça. Et ça, c'est le plus dur. Moi, le premier, j'ai encore du mal à le faire, quoi. Parce que forcément, il y a des échéances qui arrivent, on n'a pas envie de les rater. Donc des fois, on va forcer, et oui, on va reprendre, mais on ne va pas du coup être à 100% de nos capacités. Et en plus de ça, c'est des douleurs qu'on va traîner... sur le long terme, quoi. Voilà. Donc c'est comme tu dis, il faut réussir à trouver l'équilibre. Mais c'est pas toujours évident.
Pas toujours. La plupart du temps, non.
Ouais.
Les réseaux sociaux, ça peut aussi faire monter la pression. Est-ce que vous recevez des messages sur les réseaux sociaux qui peuvent vous mettre sous pression ?
Moi, je suis pas très exposée aux réseaux sociaux, donc je reçois pas forcément de messages. Après, c'est surtout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Faut faire la part des choses. Après, moi, personnellement, je reçois pas de messages ou de choses comme ça sur les réseaux.
Oui, moi, je sais que c'est pas une pression négative. Forcément, on est exposé. On est très content d'être exposé quand tout va bien et tout ça. Donc, il faut pas dire que c'est le revers de la médaille ou quoi que ce soit. Par contre, bah oui, forcément. On va recevoir beaucoup de messages à l'approche d'un match. Là, moi, je sais que bah, pour le match de vendredi qui est primordial, la plupart de mes copains et moi-même, même si je ne joue pas, on va recevoir des dizaines et des dizaines de messages. Mais je trouve que souvent, justement, c'est une pression plutôt positive. Ça montre qu'il y a beaucoup de monde qui nous suit, beaucoup de monde qui nous soutient, beaucoup de monde qui nous encourage. Je sais que pour ma part, que ce soit de la famille ou des amis, des messages avant les matchs, ça m'a toujours fait du bien. Voilà. Après, je sais, ça peut m'arriver d'y penser, de me dire, ok, bon, mais là, je sais que là, ils y seront devant ce match, quoi. De les imaginer chez eux, en train de regarder le match, et nous encourager, mais je trouve que justement, ça, c'est que du positif, ouais.
Pareil, c'est une force, des messages, par exemple, de ma famille. Voilà, c'est ça.
Ok. Et du coup, vous parliez de l'exposition au réseau, du fait que on a facilement sur son téléphone des influences. Surtout en fitness aussi.
Oui, on trouve des centaines de conneries. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire la part des choses, il faut faire le tri. Après, toutes les personnes qui n'ont pas les connaissances elles peuvent vite tomber sur des choses qui paraissent être géniales et qui sont finalement pas forcément nécessaires. Donc il faut juste faire la part des choses. Il faut s'intéresser un petit peu, je pense, et puis... petit à petit, on arrive à voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Après, oui. Les corps qui sont retouchés. les femmes comme les hommes, hein, les corps retouchés, hyper bodybuildés. Il faut savoir que ce n'est pas le corps de monsieur, madame, tout le monde. Hein. Les standards de beauté sur les réseaux, ça, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on va trouver dans la réalité.
Heureusement, on n'est jamais seul dans le sport et l'entourage peut changer beaucoup de choses. Selon vous, comment l'esprit de groupe ou la relation avec un coach change la façon de vivre ses émotions dans le sport ?
Alors moi, je vais me sentir soutenu, c'est du coup, vu que mon père, c'est mon coach.
Est-ce que du coup, par exemple, par rapport à ton père, le fait que ça soit ton coach, comment est-ce que tu vis cette relation père-fils ?
Oui.
Comment ça t'influence ?
En vrai, ça, je le vis bien, c'est même par rapport du coup, aux entraînements. En fait, aux entraînements, c'est à la maison, c'est mon père, mais à la salle, du coup, c'est plus mon père, c'est vraiment mon
Ah,
coach.
la distinction.
Ouais, c'est ça. Et après aussi, j'ai un autre entraîneur, Thierry Gouveia. En vrai, c'est, comment dire, j'ai une bonne relation avec lui. C'est comme un petit peu mon père aussi. Du coup, c'est ça, on s'entend bien, c'est ça.
Ok, pourquoi t'as deux coachs?
Du coup, c'est pour voir autre chose que mon père.
Ok.
C'est pour voir autre chose. Et aussi, c'est parce que c'est un très bon coach aussi.
Ok. Et l'esprit de groupe va influencer hein, vos émotions sur le sport.
C'est un peu ce que je disais moi pour ma partie tout à l'heure. Un groupe, une équipe du coup de rugby qui va bien amène tous les individus de ce groupe vers la bonne humeur et vers le mieux. À l'inverse, quand ça va pas, ben ça tire tout le monde vers le bas. Mais déjà du coup le groupe il fait beaucoup à ça je pense. Et c'est important que dans ce groupe du coup il y a des leaders ou des meneurs qui ben voilà, qui vont tirer tout le monde vers le haut. Et après, par rapport à la relation avec le staff, moi, par rapport à mes expériences, j'ai toujours été bien loti par rapport à ça, mais pour moi, je trouve qu'un staff qui n'est que technique, qui va être que basé sur le rugby, qui va jamais mettre une partie d'humain dans ses contenus, dans ses journées, tout ça, je trouve que ça aura du mal à fonctionner sur le long terme. Ça peut fonctionner un temps, mais je pense que ça aura du mal à fonctionner sur le long terme. Par contre, ben voilà, un coach qui sait être assez proche de ses joueurs, déceler justement quand ça va pas, ou quand il y a des périodes de moins bien, et aller le voir, lui dire, bon, ben, je sens qu'en ce moment t'es pas très bien, qu'est-ce qui se passe? Ou rester après un match, ben, boire un verre avec nous, parler d'autres choses que du rugby, parce que ben, c'est vrai qu'on passe énormément de temps au stade. Et je parle même pas des voyages, où en fait on voyage à travers toute la France, donc forcément à chaque fois c'est 48 heures de déplacement. Donc parler que de rugby, tout le temps de rugby, voir des vidéos de rugby, au bout d'un moment ça peut pas marcher. Donc, il faut savoir à l'intérieur de ces créneaux-là faire la part des choses entre ben, la partie où on s'entraîne, on est sur le terrain, et les moments à côté où du coup on peut parler d'autres choses, apprendre à se connaître. Et je trouve que ça, c'est hyper important. Qu'un staff sportif ne soit pas. Enfin, je pense que c'est pareil dans le monde de l'entreprise, mais un patron qui ne pense que à la rentabilité de ses salariés, je ne suis pas sûr que ce soit le mieux, quoi. S'il n'arrive pas à les connaître dans leur vie privée. Je pense que ça va être compliqué d'avoir des résultats et que tout le monde se sente bien sur le long terme.
Et du coup, toi, comment tu vas réussir à travailler sur le moral des participants et des participantes?
Première chose, il faut tâter le terrain. Faut parler avec les gens, voir si ça va, si ça va pas. Si ça va pas, peut-être leur demander pourquoi, si ça les dérange pas. Et après, en fonction, tu sais très bien si. Parce qu'on connaît nos adhérents. On sait ceux qui peuvent aller plus loin, ceux qui ne peuvent pas. Et en fonction de l'état du jour, qu'on a réussi à déceler ou quoi, on sait très bien que cette personne-là, même si elle peut faire plus, on va les laisser tranquilles un petit peu parce qu'elle n'est pas là pour qu'on lui prenne la tête. Elle est là pour, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens, ils viennent se défouler. Donc, c'est comme ça aussi que ça va bien se passer. Parce que si. T'es derrière une personne qui a passé une journée nulle, qui vient pour se défouler, et qu'en plus, toi, t'es derrière elle à lui dire fais plus, allez, on donne plus, nanana, alors qu'elle n'a pas envie, ça va être une mauvaise ambiance. Et ensuite, du coup, comme la personne ne reste pas dans son coin, on va parler avec d'autres gens, ils vont se dire ah oui, c'est vrai que c'est pas top. Et puis finalement, ça va pas forcément mettre une bonne énergie dans tout le cours. Donc, faut évaluer, faut faire avec, faut jauger.
Ouais, je trouve que ce que tu instaures à la fin de tes cours où tout le monde va se frapper dans la main en disant oui, bien joué, hein. Je sais pas si c'est courant dans les salles.
Je sais pas, moi j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. C'est comme à la fin des cours collectifs, on essaye de tous applaudir parce qu'on est là, on a fait un effort qui n'est pas facile quand même. Donc la moindre des choses, c'est de se féliciter soi-même et de féliciter les autres. Ça crée une ambiance, un groupe, ça permet de se faire monter. De se faire évoluer les uns les autres et de se pousser à ben, tiens, viens, on revient la semaine prochaine et tout.
Et du coup, comme on le disait tout à l'heure, le sport, c'est surtout un concentré d'émotions. Peur, colère, motivation, frustration, joie, le sport fait passer toutes sortes d'émotions. Donc, comment est-ce que vous gérez la peur et le stress avant une compétition? Du coup, là, on l'a dit, On l'a dit pour tous au final. Qu'est-ce qui vous aide à rebondir après une défaite ou un mauvais moment?
C'est pas facile, hein, des fois, de rebondir, je trouve.
Ouais, là,
enfin,
il faut vite penser au suivant.
C'est ça.
Je sais que pour nous, le plus dur après une défaite, c'est le week-end, parce que du coup, on joue le vendredi soir. Le samedi matin, souvent, on a le débrief vidéo, tout ça, et les soins de récupération, mais... Après ça, jusqu'au lundi matin, on ne se retrouve pas, on n'est plus ensemble. Et à partir du lundi matin, par contre, on bascule sur le match d'après. Et souvent, c'est cette attente qui est un petit peu longue. Alors, c'est dur pour nos proches parce que du coup, bah, ça tombe sur les moments où on est avec eux, sur le week-end. Et on n'est pas forcément toujours de bonne humeur. Après, il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Une défaite qui vient après 3 victoires, bon, bah, c'est pas très grave. Par contre, une défaite qui vient après 3 défaites, c'est autre chose. Et ça met le moral... Le moral un peu au fond des chaussettes, mais bon, non, c'est de penser à la prochaine échéance. De toute façon, on est, quel que soit le sport, quel que soit le niveau, on est toujours obligé de rebondir et de penser à la suite, parce que ce qui vient de se passer, on reviendra pas dessus. Et par contre, si on s'écroule, ben, c'est tout le reste de la saison ou tout le reste de la compétition qui va mal se passer, quoi. Donc voilà, toujours
du coup, penser à la suite,
ouais,
c'est ton
ouais.
Alors du coup, rebondir après une défaite,
ouais.
C'est surtout dans la boxe, après une défaite, vu que maintenant la boxe c'est vraiment le palmarès parfait, tout est parfait. Moi perso, c'est vraiment, je remets ça entre les mains de Dieu et je me rappelle de mon rêve et je recommence à travailler jusqu'au prochain combat, voilà.
Et ton rêve c'est ?
De devenir champion du monde.
Ok. Au contraire, comment fêtez-vous une victoire?
La troisième mi-temps.
Moi, je peux pas trop en parler. Ah non, je rigole, mais...
Ce qui est dans le club reste dans le club, c'est ça.
On sait faire un petit peu la fête pour profiter des victoires. Évidemment qu'on le fait pas à chaque fois, parce que bah, sinon, on pourrait pas tenir une saison entière et on finirait blessé. Bon, là, je suis pas blessé à cause de ça, mais... Non, on a une hygiène de vie à respecter, donc on peut pas faire n'importe quoi. Par contre, bah, ne serait-ce que passer un petit moment entre nous et avec les supporters, parce que c'est ce qu'ils attendent aussi après un match, et boire un verre ou deux, voilà, c'est souvent comme ça qu'on fait. Et après, on a aussi des moments en équipe. Alors ça, on le fait quel que soit le résultat. C'est souvent à la fin d'une... Nous, on appelle ça des blocs, c'est-à-dire c'est des semaines où les matchs se suivent avant une pause, avant une coupure. Et à la fin des blocs, on a toujours pour habitude de se retrouver en équipe. On fait un repas tous ensemble, une petite journée. Voilà. Après, ceux qui veulent prolonger un petit peu la journée, ils prolongent la journée, vu que souvent, on est en vacances après. Mais voilà, ça permet de savourer des victoires, de aussi se resserrer quand il y a des défaites par rapport à ce qu'on disait avant. Et voilà, c'est important. On ne pense pas qu'au rugby, on n'est pas que des joueurs de rugby, on est aussi avant tout des humains. On doit profiter des bons moments et savoir le faire en équipe, ça permet par contre d'être plus performant quand on revient à l'entraînement la semaine d'après.
Personnellement, que ce soit positif ou négatif, quand c'est, comme on parlait tout à l'heure, d'une défaite, bon, dans mon cas c'est plutôt un cours qui s'est peut-être mal passé ou un retour pas bon, je me remets en question, j'essaye de faire mieux, je fais des recherches, je me dis qu'est-ce que je me refais le cours de ma journée, je me dis qu'est-ce que dans ce cours là j'ai fait qui pourrait ne pas être bien, comment je pourrais faire autrement. Et de la même manière, quand ça fonctionne, quand c'est positif, je me dis ok, ça a fonctionné, c'est cool, on continue. Et comment je peux faire pour que ce soit encore mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit plus dynamique, pour que ce soit encore mieux, pour aller plus loin? C'est à peu près le même fonctionnement finalement pour ma part.
Comment je fête une victoire?
Ouais.
Alors du coup, moi je vais au restaurant et du coup je profite parce que du coup j'ai dû vraiment faire attention à mon poids pendant un certain temps. Du coup je vais au restaurant et je mange du coup.
Merci à vous. Avant qu'on clôt le plateau, je vais vous poser une dernière question. Si vous deviez donner maintenant un conseil à un jeune qui nous écoute, qui va nous écouter, par rapport à un jeune qui se sentirait débordé mentalement par le sport, quel conseil est-ce que vous donneriez?
Alors du coup, le conseil que je donnerais, c'est vraiment persévérer, même s'il y a des défaites, même si tout se passe pas comme prévu, vraiment persévérer et il va réussir.
Moi, je pense qu'il faut qu'il en parle autour de lui aussi, parce que faut pas qu'il reste, faut pas que la personne reste toute seule dans son coin à ruminer, et plus on y pense, parce qu'on a toujours plus de pensées négatives que positives sur soi. Donc je pense que le mieux, c'est d'en parler autour de soi, de se faire accompagner et faire un petit débrief en soi pour avancer.
Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais c'est aussi important de savoir pourquoi ils sont débordés. Est-ce que c'est trop d'entraînement? Est-ce que c'est trop de pression, comme on l'avait évoqué? Est-ce que cette pression, elle vient peut-être de, je sais pas, mais des parents qui ont trop d'attentes par rapport à ça, et que peut-être que bah, la personne, et donc le sportif en lui-même, il est peut-être pas fait pour cette discipline, hein, ça peut arriver. Donc c'est savoir pourquoi est-ce qu'elle est débordée. Si elle aime et qu'elle est passionnée par cette discipline et qu'elle veut continuer, bah, il faut, comme Paco l'a dit, persévérer, parce que il suffit de trouver les leviers qui font que pour l'instant ça fonctionne pas, mais ça finira par fonctionner. Bah, par contre, après, si jamais c'est juste que c'est pas un sport qui est fait pour lui, ou qu'il prend plus de plaisir dans cette discipline, il n'y a pas de honte non plus à dire bon, ben voilà, je stoppe, je vais faire autre chose de ma vie, ou autre chose comme sport. Hein. Mais il vaut mieux être savoir changer assez tôt et être heureux, plutôt que de continuer à persévérer dans un sport qui, au final, ne nous apporte aucun plaisir. Et donc, ça finira forcément par bloquer à un moment donné. Il ne pourra pas atteindre des objectifs énormes s'il ne prend plus de plaisir depuis très longtemps dans ce sport. Voilà.
Merci Théo, merci Marie, merci Paco. Merci pour vos réponses sincères et pour nous avoir parlé sans filtre. Merci à celles et à ceux qui nous écoutent. Merci à Olivier qui était à la réalisation. Merci à Maxence, à Louay et à Émilie pour la technique. Et merci à vous. À bientôt.